Ça y est, tu vois, j'arrive à faire des décrescendo. Salut Ben.
Salut Ludo, bonjour à toutes et tous. Bienvenue en direct de Mende, en direct du Square Émilie Joly pour la troisième marche des fiertés de Lozère. En direct sur 48 FM et en léger différé sur Radio Barthes pour des raisons techniques. Alors, un contexte un peu particulier aujourd'hui, puisque vous le savez, nous sommes en pause de campagne électorale. Ça fait du bien, cette pause. Oh, elle fait du bien, ils ont tellement bassiné les oreilles. Donc, conséquence directe, il nous est interdit d'appeler à voter pour ou contre quelque parti que ce soit, ce qui ne nous enlèvera pas à vous, participants, participantes, à ce plateau, d'être revendicatifs, mais... Néanmoins, même si on sait que ça peut être compliqué, s'il vous plaît, appelez simplement à voter, ça oui, mais pour personne en particulier, ça peut nous coûter très cher, hein, Ludo.
Absolument, voilà, c'est des règles mises en place par l'ARCOM pour tous les médias en règle générale, y compris les radios associatives non commerciales comme les nôtres.
Pour commencer ce premier plateau, puisqu'il y en aura trois aujourd'hui, nous sommes avec Léna de Tapage 48. Bonjour Léna.
Salut Ben, salut Ludo.
Alors, tout a été chamboulé, mais c'est ça qu'on aime dans les plateaux directs. Pour le planning familial, nous sommes avec Elsa, bonjour.
Bonjour.
Et pour DJ Pom Pom Pom, bonjour Pamela.
Bonjour.
Merci beaucoup à toutes les trois d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. On va commencer par parler de cette Pride, en fait, et de commencer par ça. On va parler de Tapage 48 d'abord. Quand est-ce qu'elle est née, cette asso, et pourquoi? Quels étaient les objectifs in fine?
Alors, quand est-ce qu'elle est née, cette asso? Elle est née en 2022. Fin 2022. et en fait, l'association a été créée à la suite d'un collectif qui a été initié par le planning familial 48, qui est juste à ma droite quand même. Il ne faut pas oublier de le dire. Avec une envie de faire une marche des fiertés en Lozère, en milieu rural, pour visibiliser les questions LGBT+, pour lutter pour les droits des personnes LGBT+. Et voilà, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il n'y avait pas forcément de connexion et qu'on avait envie de créer du lien entre personnes LGBT+. Et du coup, voilà, c'est parti de là. Et il y a plein de choses qui se sont passées depuis deux ans et demi, dont trois marches des fiertés quand même.
On a la chance de vous suivre avec 48 FM hein, depuis ces trois ans.
C'est
franchement, c'est absolument génial. Est-ce que vous avez vu une évolution, justement, au milieu rural, de désenclaver, entre guillemets, de faire libérer la parole pour les personnes LGBTQIA+, en milieu rural, et ici en Lozère spécifiquement?
Alors, on se rend compte, en tout cas, que oui, alors libérer la parole, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même... une énergie qui s'est créée, enfin, il y a quand même une communauté qui s'est créée, il y a quand même des personnes qui ont fait du lien et qui ont eu envie de faire des choses ensemble. Donc avec Tapage, en tout cas, on a essayé de mobiliser des personnes à travers ça, avec des apéros, avec la création de permanences, pour aussi permettre aux personnes LGBT+, de venir parler, rencontrer, etc. Donc on a essayé de créer des espaces, ce qui a plutôt pas mal marché. Je pense entre autres aux apéros dans les espaces publics où en fait y a pas mal de personnes qui sont venues et on s'est rencontrés et ça crée du lien. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont bénévoles sur des événements comme ça et donc c'est hyper agréable. Et après, au-delà de ça, on se rend compte que même en région Occitanie, en fait, il y a énormément de prides rurales qui se sont créées depuis trois ans. Donc aujourd'hui, on en voit dans quasiment tous les départements de la région Occitanie, dans des petits bleds, dans des petites villes. Et bon, ça fait quand même plaisir parce qu'on voit que la communauté, elle est aussi en milieu rural, elle est là aussi, quoi.
Qu'est-ce que ça fait du bien, Ludo?
Oui, tu parlais de la parole qui s'est libérée. Elle s'est libérée pour le meilleur, également pour le pire. On voit de plus en plus aussi d'actes homophobes, de paroles qui se libèrent négativement.
Ouais, carrément. C'est clair que ça, on peut pas le nier. De toute manière, plus on se visibilise en tant que personne minorisée, plus on a des risques de subir des discriminations. Ça, c'est une évidence. Mais ça marche pour toutes les minorités. Ça marche pour les personnes LGBT, ça marche pour les personnes racisées, pour les personnes grosses, enfin, toutes les personnes qui ont des risques de subir des discriminations. Et c'est sûr que, enfin, en tout cas, avec Tapage, on a clairement... On a clairement été emmerdés depuis le début de l'organisation à se faire arracher les affiches. On a reçu des commentaires vraiment haineux de fous sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est sûr que plus on se visibilise, plus on risque de se faire attraper.
Un pas en avant, quatre pas en arrière.
Voilà.
Très désagréable.
C'est ça.
Ceci dit, parlons aussi positif. cette année, alors, moi ça m'arrange perso parce que j'ai pas à dire le nom du parc où on était en bas. Beaucoup plus simple de dire Émilie Joly.
Ouais,
voilà, cette manifestation aujourd'hui, elle est en centre-ville et ça c'est quand même une vraie bonne nouvelle.
Mais carrément, c'est sûr que pour nous c'est hyper agréable, c'est beaucoup plus petit, c'est... c'est Cocoon. On est à côté du théâtre. D'ailleurs, on remercie le théâtre municipal de nous prêter leurs locaux. Enfin, voilà, c'est sûr qu'on est beaucoup plus visible avec la marche aussi en plein centre. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais toujours pareil, plus on est visible et bon, plus il y a des risques. Donc voilà, on reste un peu sur nos gardes quand même. Je vais pas vous mentir.
C'était une volonté de votre part ou c'est que ça s'est fait parce que c'était pris ailleurs ou c'est vous qui aviez demandé d'être en centre-ville ?
En fait, c'était notre idée pour la première année au parc Émile Joly. On avait envie de faire ça ici, mais le lieu n'était pas disponible. On a eu des voilà, tout, rien n'était disponible pour nous. Du coup, on est parti au parc Wunsiedel, Ben. et voilà, c'était très bien là-bas aussi, mais effectivement, c'était très excentré, c'était plus compliqué. Il y avait tout à construire, tout à monter. Et là, en fait, bah, on revient un peu à la phase initiale et c'est trop cool pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on voulait à la base, donc c'est pas par hasard.
On vous invite, auditeurs et auditrices, à venir vraiment dans ce petit village associatif. Ça va parler d'amour, ça va parler plein de choses, de sourire, parce qu'on est là vraiment pour ça, rappelons-le. Hein, quand même,
oui,
hein.
entre autres.
Évidemment, puisque transition tout trouvé, puisque cette marche cette année, cette marche de fierté, se veut un peu plus revendicatrice que les autres années. Explique-nous tout.
Ouais, carrément. Bah, c'est sûr que cette année, avec un contexte actuel un peu compliqué, on a clairement appelé à une convergence des luttes, vraiment, au-delà des droits LGBT+. Enfin, pour nous, il y a une dimension très intersectionnelle, en fait, qui passe par des luttes aussi pour les personnes racisées. Enfin, voilà, un peu comme je disais tout à l'heure, toutes les personnes qui peuvent subir des discriminations sociales, carrément. Et donc voilà, et on appelle toutes les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin par des droits et pour une société plus égalitaire à venir manifester avec nous aujourd'hui à 17h.
C'est à partir de 17h. Et Elsa, merci beaucoup d'être avec nous pour le planning familial. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler les rôles et les missions qu'a le planning familial, surtout évidemment, puisque ce contexte nous permet de le dire, pour la communauté LGBTQIA+.
Donc le planning familial est une asso féministe et d'éducation populaire qui existe depuis plus de 60 ans en France. Historiquement, on était sur les questions d'accès au droit à la contraception et l'avortement. Mais au fil des ans, c'est un mouvement évidemment qui a évolué. Donc on travaille beaucoup sur la question des violences, la prévention des violences et de toutes les formes de discrimination. Donc dans ce cadre-là, effectivement, toutes nos actions... vise à favoriser des rapports plus égalitaires entre toutes les personnes et notamment la défense des droits des personnes, des groupes minorisés, donc les femmes, les personnes LGBT. Donc nous, le cœur de nos actions, c'est quand même beaucoup les interventions en milieu scolaire pour des séances d'éducation à la sexualité. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, les questions LGBT émergent. Et puis nous, il y a vraiment une volonté en fait, de pouvoir favoriser l'accès à une vie affective, relationnelle, sexuelle, épanouie. Donc quand on dit épanouie, ça veut dire sans coercition, dans le respect des droits humains, etc. Donc c'est vrai que les questions LGBT, vous parlez de libération de la parole. Pour nous, ce qu'on observe, c'est effectivement une libération de la parole, mais pas que du côté des personnes potentiellement victimes, mais aussi une libération de la parole sur des propos et des comportements homophobes. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on observe quotidiennement lors de nos interventions. Et effectivement, on a quand même noté une forme de... Disons, on sent que les personnes sont moins... complexé, c'est-à-dire que vraiment il y a des propos haineux qui peuvent être tenus qu'on n'entendait pas il y a 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'homophobie, qu'il n'y avait pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même aussi ce backlash. C'est-à-dire qu'effectivement, une communauté se visibilise, fait part de ce qu'elle vit, des discriminations qu'elle subit. Et donc il y a vraiment un retour de bâton très violent et qu'on peut constater chez les plus jeunes aussi. Mais voilà, les plus jeunes sont le reflet de la société dans laquelle on est. Donc ils sont à l'image de notre société. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on est quand même assez inquiète de constater ce qui se passe au sein de nos actions collectives, mais aussi dans les entretiens individuels qu'on peut assurer, où les personnes viennent nous rencontrer et où on est à l'écoute sur des problématiques plus personnelles, mais qui sont aussi le reflet de ce qui se passe de manière généralisée au sein de nos sociétés.
D'où l'importance de ces cours et d'apprendre dès le plus jeune âge à la tolérance finalement de l'autre.
Nous, il y a vraiment un enjeu à pouvoir garantir l'accès à ces séances d'éducation à la sexualité qui sont inscrites dans la loi depuis plus de 20 ans, mais qui, dans les faits, normalement, tous les enfants, tous les jeunes ont droit à 3 séances d'éducation à la sexualité par an durant toute leur scolarité. On est très loin du compte.
Est-ce qu'il n'y a rien déjà, 3 ?
On est loin du compte. Mais si c'était 3 tous les ans, en parallèle de d'autres actions de prévention qui peuvent se mettre en place. Je pense que ça aurait des effets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de garantir ces trois séances. Et c'est vrai qu'on ressent quand même le planning familial est régulièrement attaqué, notamment par rapport à son positionnement plus clair sur les questions LGBT, notamment l'accueil des personnes trans, où on a eu beaucoup d'attaques très fortement médiatisées. Donc ça, c'est vrai que on est quand même inquiet sur notre capacité à pouvoir continuer d'intervenir durablement dans les établissements scolaires sur ces questions-là.
Est-ce que au niveau des moyens, vous les avez en suffisance, ou alors il faudrait faire mieux?
Au niveau des moyens financiers?
Financiers. Et humains, d'ailleurs.
C'est pas l'association la mieux aidée. Hein,
Non, mais d'une façon générale, toutes les associations de lutte pour les droits des femmes et l'égalité sont sous-financées. Hein. Ça, c'est pas spécifique au planning. Et c'est quelque chose qui est présent depuis toujours, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Mais au niveau local, on ne peut pas dire. Nous, on est quand même dans une période où on a eu vraiment un soutien fort des partenaires locaux. À la fois financier, mais aussi, c'est pas juste le soutien financier, enfin un partenariat, c'est aussi comment nos actions sont valorisées, sont soutenues et défendues par nos partenaires associatifs et institutionnels. Donc au niveau local, on peut quand même souligner qu'il y a quand même un vrai soutien pour le moment du planning familial.
Tu parlais d'écoute, c'est une nouveauté de ta page aussi, des permanences d'accueil et d'écoute, c'est de cette année, enfin, ou de fin 2023, au sein du planning familial, c'est ça?
Oui, l'idée c'était de pouvoir mettre à disposition nos locaux pour cette permanence de tapage, ouais, tout à fait.
Et on remercie grandement le planning familial quand même pour nous mettre à disposition ces locaux tous les premiers samedis du mois quand même pour faire des permanences d'écoute et d'accueil. Ouais.
Au niveau de la pédagogie, entre guillemets, est-ce que les personnes LGBTQIA+ savent qu'ils peuvent venir voir le planning familial pour discuter ou alors il y a encore une espèce de barrière en fait à franchir la porte du planning?
Alors, on rencontre des personnes LGBT régulièrement. Après, c'est vrai qu'on n'est pas un lieu qui a forcément été historiquement identifié comme... parce qu'on n'est pas une association communautaire. Hein. Mmh. Donc, on est une association généraliste qui travaille plus spécifiquement sur la question de la santé sexuelle. Donc oui, on accueille des personnes LGBT. On a accompagné des personnes qui avaient besoin d'informations pour leur parcours de transition. On est en lien avec plusieurs structures hors département communautaire également. Mais le planning, c'est quand même beaucoup... disons, a fait un travail justement de communication et de visibilisation, comme quoi on était aussi un lieu ressource pour tout le monde, y compris les personnes LGBT. Donc je pense que là, on est quand même mieux identifié, mais ça reste, d'une manière générale, sur les questions d'accès à la santé sexuelle, en tout cas, on a pu observer, par exemple, le fait de ne pas avoir la garantie de pouvoir accéder à des médecins safe, il y avait globalement, en tout cas pour les personnes lesbiennes, par exemple, ça avait été identifié, qu'elles avaient moins recours aux soins. Alors, je ne parle pas du planning familial, mais aux soins tout court, du fait qu'il n'y avait pas toujours la garantie d'avoir un accueil inclusif dans les consultations médicales. Donc ça en fait, la non-inclusivité a des conséquences directes sur la santé des personnes, en fait.
Pas plus à dire sur le planning, Ben. J'ai des chiffres, 441 000 personnes touchées l'an dernier par vos actions au niveau national. Voilà, donc ça fait beaucoup de personnes qui sont aidées ou accompagnées par le planning familial. Deux tiers de femmes, moins d'un tiers d'hommes. Et c'est souvent des jeunes majoritairement que vous accompagnez.
Oui, on est vraiment identifié comme un lieu ressource pour les jeunes. C'est dommage parce qu'en fait, les questions de santé sexuelle concernent tout le monde. Donc c'est vrai que j'en profite pour rappeler que vraiment, on est un lieu ressource pour toute personne qui a besoin d'un accompagnement, d'une information ou d'une orientation sur des questions en lien avec la santé sexuelle. Et pour en Lozère, pour donner quelques chiffres, en 2023, on a rencontré plus de 7000 personnes. Il y a eu...
10% de la population.
C'est fou, hein.
C'est fou, hein.
On est aussi avec Didi Pamela, merci beaucoup d'être avec nous. Tu clôtureras...
Elle est en pleine forme, elle est réveillée, elle nous a dit c'est bon.
Tu clôtureras la soirée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours, est-ce que tu vas proposer ce soir à celles et ceux qui seront là?
Oui, alors du coup je suis DJ Pom Pom Pom, ça fait 5 ans que je suis DJ. Je joue majoritairement des musiques afro et latino pour mettre en avant ma culture et des musiques très dansantes. Il y a aussi beaucoup de musiques de mon enfance, c'est-à-dire les années 2000, donc un peu un mélange d'un peu de tout ça.
On n'aura pas les 2B3.
Non, pas ça. Ah,
je suis des années 90, bah c'est fou. Hein. Justement, peu importe qu'on aime comme on aime, l'amour doit être une fête. C'est bien pour ça que tu fais ce métier, si tant est que ce soit ton métier.
Oui, alors DJ, c'est mon métier à temps plein, mon seul métier. J'essaye d'en vivre. Et pour moi, il y a plusieurs raisons. C'est mon amour de la musique. Et aussi, c'est aussi venu, parce que bah, là, on est dans une Pride, et c'est aussi venu du fait que bah, je ne me voyais pas représentée dans ce métier. Mes musiques n'étaient pas représentées dans les soirées où j'allais, etc. Donc je me suis dit, ben, autant le faire moi, en fait.
Sonorité, plutôt, t'es quoi, reggaeton, afrobeat C'est ça
tout ça.
Tout ça, voilà. Et Kizomba, j'ai lu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je ne connais pas.
Ok, bah, c'est le moment de découvrir. Alors, en fait, c'est parce que je suis originaire du Cap-Vert. Et la Kizomba, c'est un style musical qu'on pourrait un peu comparer au Zouk, qui vient du Cap-Vert. Donc, c'est souvent chanté en portugais ou en créole du Cap-Vert. Voilà, je ferai un peu découvrir ça tout à l'heure.
Alors, ton dernier concert, enfin, 1er juin, tu étais à Marseille, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et 26 octobre à Lyon? C'est t'as ça. Vu, j'ai bien bossé. Wow. Et entre, tiens, si j'allais à Mende, c'est bien ça.
Oui.
Et à quelle heure, Léna, rappelle-nous, c'est le concert?
Alors, DJ Pom 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 joue vers 23h, 23h30, elle termine la soirée.
Alors, peut-être qu'on va l'annoncer, les concerts se feront à l'intérieur, au Théâtre de Mende, il y a un changement sur ça ou pas?
Tout à fait, on l'a annoncé un petit peu sur nos réseaux, mais effectivement, étant donné la météo qui s'annonce pas très clémente aujourd'hui et ce soir, nous avons la chance d'avoir le théâtre en intérieur avec nos chers amis de Lozère Logistique Scénique qui assureront la technique. Et voilà, mais j'imagine qu'on va parler un peu de la programmation plus tard dans l'émission.
En tout cas, Pamela, culture, musique, engagement, ça va de pair. Est-ce que la culture et la musique doivent être engagées, forcément pour toi? Quel est ton avis personnel là-dessus?
C'est assez compliqué comme question. Pour moi, oui. En fait, la culture a une histoire. Donc, toutes les musiques que je joue ont une histoire. Les musiques que j'appelle afro-descendantes, dont les musiques latinos sont afro-descendantes, ont des histoires. Et pour moi, on comprend mieux la musique quand on comprend leur histoire. Donc, un petit exemple rapide. Par exemple, pour moi, le reggaeton. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le reggaeton, c'est juste une musique dansante. Ce qui est très bien, c'est ça, oui, oui. Mais en plus, en fait, c'est né dans des revendications, des manifestations à Porto Rico. C'est des musiques qui sont chantées à Porto Rico lors de manifestations dans les années 90. Des musiques qui étaient interdites. Et aussi les paroles qui sont...
Alors, on est encore en direct.
Auditeur, auditrice, voilà, il vient de se passer un truc de fou, c'est que le chapiteau sur lequel on était
vient de s'envoler. Voilà.
Donc,
c'est pas toi qui devais l'attacher, Ben.
Je devais l'attacher, mais tu connais Radio Barthes, quelques problèmes avec. Voilà.
Je crois avoir entendu dire, Ben, t'as bien accroché le chapiteau.
Auditeur, auditrice, tout se passe bien, tout le monde va bien, il n'y a rien autour de nous, tout va bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, voire même 4 ou 5 petites pauses musicales, histoire de. Voilà. Mais tout va très bien, voilà. Et voilà, tout le monde va très bien. Vous êtes bien en direct sur 48 FM et sur Radio Barthes en léger différé. Mais
on va écouter DJ
Pom Pom Pom.
Un gros son comme
et
ça.
Et voilà, et on va peut-être. T'en as deux, trois ou pas? Parce qu'à mon avis, le temps.
J'en ai une, mais après, je mettrai d'autres chansons calmes.
On y va, tout va bien, parti. On a le sourire, tout va c'est bien, parti. Tout va très bien. DJ Pom Pom Pom. Yeah, listen to your reaper, we go, it's in our
Allez, on est de retour après ce petit événement. C'est fou, ça. Dès que je suis avec toi, Ben, tu peux pas t'empêcher de faire des bêtises. Hein, hein.
Écoute, j'ai pas fixé le chapiteau. Il s'est envolé. Voilà, tout va très très bien. Vous êtes toujours en direct sur 48 FM et en léger différé sur Radio Barthes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, ça arrive un gros coup de vent.
Voilà, c'est une tonnelle qui nous abritait, qui est partie. Il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, donc c'est l'essentiel.
Tout va très bien. On est en direct de la marche des fiertés ici à Mende, au Square Émile Joly, où un bel événement et plein de belles personnes sont avec nous. Je fais juste un tout petit rappel, puisque nous sommes en pause de campagne électorale. Ça fait du bien d'être en pause de campagne électorale. N'oubliez ceci dit pas d'aller voter demain pour qui vous voulez.
Voilà, et la pause, mais du coup, on ne peut pas parler de politique dans cette émission. On le rappelle à nos invités ici présents, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de parti. Voilà, demain, les élections, on est obligé, pas avec l'ARCOM, ancien CSA, de ne pas évoquer les élections. Nous, on en parlera demain, on sera en direct, je fais un peu la pub à partir de 19h30 sur 48FM pour connaître les résultats dès 20h. On va peut-être dire au revoir à Pamela qui est restée avec nous, elle est restée stoïque.
Elle n'a pas bougé de sa place. Merci. Alors, tu as été un tout petit peu coupé, on parlait de reggaeton juste avant que tu me quittes. Est-ce qu'on peut juste lire ce que tu disais tout à l'heure sur reggaeton notamment?
Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est très important de connaître l'histoire des cultures qu'on met en avant pour que ça fasse plus de sens. Donc c'est pour moi comme ça qu'en fait on est forcément militant quand on travaille avec d'autres cultures, même avec nos propres cultures.
Merci beaucoup et excellent concert à toi ce soir. Tu clôtureras la soirée, DJ Pam Pam Pam. Merci beaucoup.
Merci.
Tu vas pouvoir prendre la place de Pamela, Maxime, avec grand plaisir. Pour la livrerie, Maxime et Valérie, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pour le CIDFF, Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Et comme ça a été un peu changé, on s'est vu juste avant, je vais faire attention de pas me tromper dans ton prénom, Franck, pour Addiction France.
Bonjour.
Il fallait pas que je me plante. Addiction France, explique-nous les rôles, les missions de c'est quoi, c'est une association, c'est comment ça se passe?
Alors effectivement, Addiction France est une association nationale et qui, comme son nom l'indique, peut-être pas toujours sexy ou marketing, en tout cas, Addiction France s'occupe de toute personne qui a une problématique par rapport à un produit ou un comportement. Ça peut être les jeux vidéo, des drogues licites ou illicites, le tabac, l'alcool. Et donc on est dans l'accompagnement, le soin au rythme de la personne, en limitant au maximum les problématiques autour de cette consommation.
L'excision, l'exclusion, la solitude peuvent amener à des comportements addicts. Clairement, comment vous gérez, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce que vous envoyez vers des structures? Concrètement, comment ça se passe pour vous? Quel est votre rôle sur le terrain?
Alors effectivement, non, nous sommes la structure, c'est-à-dire que nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, effectivement, addictos, d'infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux. C'est une équipe qui gère les problématiques en commun et donc c'est une prise en charge au rythme de la personne. Et d'ailleurs, certaines ne sont pas dans la vision d'arrêter, mais juste de limiter ou d'être accompagnées dans la consommation de produits jusqu'à, on l'espère, le jour où ils ne seront plus dépendants de ce produit.
Pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur des événements comme cela, comme la Pride?
Alors d'une manière générale, nous on est ouvert à tout public dès qu'il peut y avoir un risque de consommation ou de comportement avec un problème, une problématique sanitaire derrière. Donc à la grande époque de la réduction des risques et des dommages, c'était l'époque du sida. C'est à cette époque-là où cette politique a été développée de façon très importante. On s'est aperçu qu'en aucun cas, ni la répression, ni le jugement pouvaient impacter les personnes qui avaient une addiction à un produit ou un comportement. Mais c'est en les aidant, les assistant et en réduisant les risques qu'on arrivait à solutionner une problématique et à faciliter la vie de toute personne, donc sans jugement, sans orientation et sans aucune discrimination.
Ludo.
Alors vous accueillez les personnes concernées et également leur entourage. Ça, c'est quelque chose d'important, ça, voilà.
Effectivement, lorsqu'il y a un problème de comportement addictif, l'impact sur l'ensemble de l'entourage existe, mais que ce soit la famille, l'employeur, la vie sociale, et l'entourage est chez nous considéré comme un usager. C'est-à-dire qu'on peut venir chez nous pour avoir des informations, des conseils, parce qu'une personne qui ne vient pas nous voir pose un souci au niveau familial, professionnel. Et là, on est vraiment dans l'aide. Et d'ailleurs, pour les jeunes, on a une consultation jeune consommateur, une consultation gérée par un psychologue pour être encore plus adapté à ce type de population.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, c'est tout âge. Hein.
Tout âge, tout produit, tout comportement.
C'est ça, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dès 8-9 ans, on peut avoir des addictions, en fait. Et on ne se rend pas compte qu'on est addict soi-même.
Alors bon, les choses aujourd'hui, on parle beaucoup des écrans, effectivement des jeux vidéo. Alors c'est pas une addiction au sens des conventions internationales, mais il y a ces problématiques-là, effectivement. Et après, en ce qui concerne les produits, ben on peut toujours parler du tabac. Il y a toujours la problématique de la vision qu'on a de la chose. Les drogues, entre guillemets, ce qu'on peut appeler légales, tabac, alcool, sont notre première cause de consultation. Ça pose des problèmes au quotidien à certaines personnes d'avoir ce type de soucis, quoi.
On a un dealer à chaque coin de rue, hein, comme dirait l'autre. Hein. C'est Coluche qui disait ça. C'est vrai que c'est assez incroyable. Beaucoup de gens, entre guillemets, critiquent les addictologues, etc. Est-ce que les addictologues sont compétents et peuvent aider là-dedans?
Un addictologue soigne quelqu'un de malade. Et le jour où on critique les gens qui soignent des gens malades, on peut s'inquiéter effectivement.
Vous recevez les gens au sein d'Addiction France en Lozère et vous déplacez également à l'extérieur, notamment on parlait des jeunes dans les lycées, au CFA, pour aller les rencontrer.
Alors l'idée, effectivement, c'est une politique publique qui est maintenant très répandue, c'est d'aller vers des personnes qui ne seraient peut-être pas venues chez nous pour avoir des informations, un contact ou une prise en charge, effectivement dans certains établissements scolaires, effectivement dans certains endroits comme les CHRS, les lieux d'accueil. On essaie d'aller au plus près des gens et puis effectivement des permanences dans les maisons France Service sur l'ensemble du département.
On parlera culture dans quelques instants avec la librairie. Parlons du je ne vais pas me tromper,
CIDFF, non,
du CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Isabelle, tu es avec nous. Est-ce que c'est important pour vous et pour l'association d'être présent sur un événement comme celui-ci?
Oui, tout à fait, c'est important parce que, justement, de par notre nom, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, on a tendance à penser qu'on accueille que des femmes. Voilà, donc c'est aussi pour décloisonner, pour dire que, en fait, on accueille toute personne qui a besoin d'être accompagnée, qui est victime de violences sexistes ou sexuelles, ou qui est victime de discrimination, puisqu'on offre un certain nombre de services.
Alors, est-ce que c'est une impression ou pas? Est-ce que c'est plus accepté, entre guillemets, d'être une famille parentale pour des femmes que pour des hommes aujourd'hui, malheureusement? Par contre, je parle d'une impression, je ne parle, parle pas de fait, hein, à toi de nous répondre.
Je pense que c'est difficile et c'est peut-être réducteur de le présenter comme ça. Je pense que oui, ça reste quand même difficile pour les femmes. voilà, parce que les démarches sont plus compliquées, parce que la charge mentale, parce que les discriminations, les violences, effectivement, majoritairement, c'est plutôt les femmes qui les subissent. Donc oui, ça reste plus compliqué pour une femme.
Mmh. Transition, tu trouvais, moi je pensais pour les familles homoparentales, hommes aussi, c'est plus compliqué à dire j'ai deux papas que j'ai deux mamans, je sais pas.
Alors je pense que oui, ça reste plus compliqué, oui. Oui. C'est peut-être moins bien perçu, peut-être encore... oui, je pense que c'est moins bien perçu. C'est ce qu'on peut ressentir. Après, on ne reçoit pas énormément, enfin on en reçoit de plus en plus, mais majoritairement des couples de femmes.
Parlons des démarches administratives, justement. Est-ce que au niveau de l'adoption, ça y est, ça se démocratise, c'est plus simple, ou ça reste encore quelque chose de compliqué là-dedans?
Je pense que ça reste quelque chose de compliqué, déjà de l'envisager, d'en parler et de le réaliser, oui, ça reste compliqué.
Aussi l'EFF, le spectre de personnes que vous recevez est extrêmement large. Quelle est la part justement de ces personnes LGBTQIA+, qui pourraient venir vous voir suite à des soucis?
Je dirais que ça représente effectivement une petite part, hein, puisque majoritairement, plus de 80% des personnes qu'on reçoit sont des femmes, mais ça doit représenter entre 2 et 3%, donc on reçoit quand même plus de 1500 personnes par année. Donc voilà, avec des problématiques très diverses qui sont pas forcément des problématiques spécifiques, hein, parce que en fait, la problématique de la garde d'enfants, la problématique de l'accès aux soins, c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve.
On va rappeler, tu es juriste.
Oui.
Vous pouvez accompagner les personnes sur différents domaines,
oui.
Donc sur ça, sur l'emploi, sur l'emploi. La formation. Rappelle-nous un peu.
Alors, au niveau du CIDF, c'est vrai qu'on offre pas mal de services. On est une équipe pluridisciplinaire, donc on a deux psychologue, un service accueil de jour avec une éducatrice et une chargée d'hébergement puisqu'on peut héberger des personnes victimes de violences intrafamiliales ou des victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc moi je suis la juriste, on a un service de médiation familiale, on a des couples homosexuels effectivement qui font appel à la médiation familiale au moment de leur séparation principalement. Voilà, et puis on a un service aussi de formation.
Voilà, de formation, y compris envers les associations.
Oui.
Voilà, les festivals vont arriver, vous formez, oui, les associations à ces problèmes.
Tout à fait, on fait de la formation à destination des bénévoles et des salariés sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, pour les accompagner, pour mettre en place un protocole et un espace safe. Voilà, et puis pour les aider aussi à réaliser ce qu'est la violence sexiste et sexuelle, ce que ça représente, comment on prend en charge, comment on accompagne, comment on déconstruit aussi les stéréotypes.
Et pour les assos, justement, les festivals arrivent, c'est un service totalement gratuit.
Ils non.
N'ont qu'à... Parlons-en de moyens.
Donc c'est des formations. Alors après, on s'adapte aussi à la demande. La formation que l'on propose, elle est sur 2 jours, avec une première journée de déconstruction des stéréotypes, la présentation de ce qu'est les violences sexistes et sexuelles, la particularité de ce qui se passe en milieu festif également, le rappel de la loi, et puis après tout un volet où on va les accompagner pour construire, comme je le disais, un protocole, comment on accueille une victime sur un lieu de festival, etc. Mais après, on s'adapte, puisqu'on a fait des formations sur une demi-journée, voilà, en fonction des moyens et des demandes. Voilà, parce que après, ça peut être pris en charge, il y a des moyens de faire prendre
voilà,
en
ça
charge.
Peut être pris en charge, rappelons-le. Mais grosso modo, si Radio Barthas veut se former chez vous, on est une association, combien ça représente? On a de la thune, nous.
Très, oui, c'est ça. On peut monter le prix pour
j'ai, J'ai anticipé totalement. Non, mais plus ou moins, histoire qu'on se rende compte un peu du budget que ça peut représenter.
Ça doit être 300 euros à peu près la journée.
300 euros la journée.
Voilà. Après, on peut se déplacer. On peut le faire aussi. On l'a fait, par exemple, pour Seine Croisée. On s'est déplacé sur place et on a formé l'ensemble de l'équipe.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines associations qui, après la formation, se sont regroupées pour mettre en place ensemble des projets lors des festivals.
Et on les a accompagnés, on les a rencontrés après pour voir aussi ce qu'ils ont mis en place, comment ils se sont saisis de tout ça, et puis de les accompagner.
D'où le fait que vous puissiez vous rendre compte aussi que derrière ça porte ses fruits.
Oui, et que, tout à fait. Et
c'est quoi un peu les choses positives qui en sortent dans cet après?
Ce qui était intéressant, c'est de voir déjà comment ils s'en sont saisis, c'est-à-dire le fait de se regrouper tous ensemble et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les différents festivals sur la Lozère, pour faire quelque chose de commun. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis... ce qui est super intéressant, c'est la première journée où on fait la déconstruction des stéréotypes. Ouais. Et puis, c'est...
Ouais. Abolir les clichés, faire des ponts. On va parler un peu de culture avec Maxime et Valérie de la librairie. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Je vais commencer par une question simple. Vos coups de cœur littéraires qui pourraient intéresser nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui. Un livre que vous avez envie de conseiller qui est vraiment à lire.
On le fait à Shifumi ou...
Alors Shifumi, il y a un chapiteau qui s'envole. Shifumi, c'est pas très radiophonique, mais après tout...
C'est tout ce qui est sur la table. On a fait une sélection extrêmement exhaustive avec notamment les recommandations de l'assaut tapage et puis même ce que nous, on connaissait.
Un assortiment fait par nous-mêmes, par l'association tapage. J'en profite aussi pour remercier mes camarades du master métier du livre et de l'édition qui m'ont beaucoup aidé. Mm. Et un cher ami qui s'appelle Flo aussi. Beaucoup de gens ont aidé à faire cet assortiment.
Et on a essayé d'avoir des ouvrages pour tout le monde, des enfants aux adultes, des essais, de la BD. Mm. Mais puisque la question c'était quel est le coup de cœur, moi celui qui m'a fait vraiment avoir un déclic, c'était Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado. Je suis tombée, mais totalement par hasard, j'ignorais qui était Paul B. Preciado, et je suis tombée sur lui. C'était au musée Pompidou à Paris. Je voyais des gens faire la queue, étaient très enthousiasmés, et j'ai suivi sans savoir ce que j'allais écouter et qu'est-ce qu'il allait dire, et je me suis dit bon, là il faut soutenir, il faut accompagner. Donc c'était un rapport qu'il a fait, il a parlé devant des psychanalystes, je crois que c'était plus de 300, et il a fait part de, justement, il leur a expliqué sans agressivité pourquoi est-ce que c'était mal, la vision qu'ils avaient, comment ils étaient coupables d'avoir considéré pendant toutes ces années les personnes qui étaient d'abord homosexuelles ou après qui souhaitaient entrer en transition de personnes malades, et des invités à déconstruire, pour reprendre les termes d'Isabelle, sur toutes les idées préconçues qu'ils avaient, alors qu'ils représentaient quand même les soignants, donc les sachants. Et donc c'est pour moi l'ouvrage sérieux, ce serait Je suis un monstre qui vous parle de Preciado. Et après, sinon, l'ouvrage pas sérieux mais que j'aime beaucoup, c'est Gender Flou de Thamos Le Thermos.
Maxime?
Alors moi aussi du coup je vais commencer par un petit ouvrage un petit peu pédagogique, un petit peu essayiste, c'est Une histoire de genre de Lexi, qui est une influenceuse Instagram qui tient un compte justement de vulgarisation et de pédagogie sur les questions d'identité trans, d'identité de genre. C'est un ouvrage qui a pour sous-titre Guide pour comprendre et défendre les transidentités. C'est un ouvrage un petit peu qui m'a marqué, je l'ai découvert chez Valérie. Ça me semblait extrêmement important d'en faire la promotion, d'autant plus via la couverture médiatique qu'a eu un certain ouvrage très nauséabond et très transphobe sur beaucoup de chaînes de télévision. Là, c'est un ouvrage extrêmement sérieux, extrêmement sourcé, autant que possible. C'est un ouvrage militant qui traite du coup autant de questions de vocabulaire, la question des identités trans et de genre, des questions de définition, et aussi les questions des visibilités, des représentations à travers l'histoire, et un chapitre aussi particulièrement poignant sur l'anatomie de la transphobie. C'est un ouvrage, je pense, à mettre entre toutes les mains, pour renverser un petit peu la vapeur de la transphobie qui cavalcade, essayer de mieux comprendre justement, essayer de se décentrer son regard. Et un petit peu en complément, il y a La fin des monstres aussi de Tal Modesta, qui a un sous-titre aussi éloquent, Récit d'une trajectoire trans. Là, on est vraiment sur un ouvrage de témoignage. Si vous voulez comprendre à la fois du coup pédagogiquement et par un point de vue, ça me semble assez bien.
Ça doit être très désagréable de devoir vendre des livres desquels on n'est pas du tout d'accord et on ne citera pas
l'ouvrage.
Et ça doit être très très désagréable. Comment on fait quand on est dans une librairie indépendante comme ça?
Une bonne question justement, moi j'ai pas encore eu le temps de la poser justement vu que je suis encore en études, mais je vais la poser à des librairies militantes. Justement, c'est une question que je me pose, est-ce qu'on a le droit justement de demander, de commander des ouvrages, est-ce qu'on oriente vers ça? Franchement, justement de la même manière en fait que des ouvrages transphobes, des ouvrages homophobes sont des ouvrages qui sont clivants, qui prennent la parole et qui imposent un discours, qui ont un effet performatif sur la réalité, il faut renverser la vapeur justement avec des ouvrages à contre-courant justement. Et il faut...
Alors ouais, il y a un peu de bruit, voilà. C'est le direct, c'est ça. Comment on pourrait définir la littérature LGBTQI+, si on peut faire un petit historique de cette littérature, quand est-ce qu'elle est vraiment apparue, où elle a pris son essor
Techniquement, la littérature LGBTQA+, c'est une littérature qui s'intègre à l'ensemble un petit peu de la littérature de l'humanité. Là, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu, c'est ma petite contribution au stand. Il y a un petit cajou justement où vous pourrez retrouver plein de classiques de la littérature, d'auteurs et d'autrices trans, bisexuels, homosexuels, lesbiennes, qu'on a eu un peu tendance à oublier sous l'étiquette classique. C'est quelque chose qui commence dès la Grèce antique avec les poèmes de Sappho justement qui vantent l'amour saphique. Ça continue également au Moyen-Âge avec les poèmes d'amour. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans l'histoire littéraire. C'est pas justement un phénomène moderne. S'il y a autant bien sûr d'ouvrages qui lève le voile, qui parle justement de questions de genre, de questions de transphobie, d'homophobie, d'emprise parentale, c'est évidemment parce que maintenant il y a une possibilité d'expression et parce qu'on a enfin surtout des termes pour faire devenir dans le réel ces questions justement. Mais il y a aussi toute une histoire littéraire LGBTQA+, à faire émerger. C'est ce qu'on a essayé de faire, on a mis des ouvrages du XXe siècle avec Marguerite Yourcenar, avec Ian Forster, il y a Virginia Woolf aussi, à qui on pensait qu'il était une autrice bisexuelle, là j'ai Orlando sous les yeux, qui était déjà un ouvrage qui parlait de transidentité un petit peu à l'époque. C'est un inventaire en fait à refaire émerger en fait. C'est faire prendre conscience que les personnes LGBTQA+ existent depuis toujours et qu'il y a des ouvrages qui certes n'ont peut-être pas les mêmes définitions, les mêmes vocables qu'aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, mais qui existent en ce sens et qui sont à mettre entre toutes les mains.
La France s'empare de ça par rapport aux autres pays, par exemple. On se situe où? C'est peut-être compliqué comme question. Mais on est là pour ça. Hein,
c'est vrai, parce que je suis nullement spécialiste de toutes les littératures. C'est quelque chose qu'on essaye de revoir un petit peu dans notre théâtre. C'est vrai que c'est un peu plus présent, c'est vrai, dans le domaine anglo-saxon. C'est vrai que, par exemple, là, j'ai à nouveau Shakespeare sous les yeux. C'est un théâtre qui se prête, évidemment, aux questions justement queer, aux questions de changement, de transition. C'est vrai que c'est un peu moins quelque chose qu'on a trouvé nous, mais on a des auteurs comme Marguerite Yourcenar justement qui en parlent, au-delà elle-même de s'être revendiquée justement autrice lesbienne, d'avoir vécu avec sa compagne à Monde Déserte. Tous ces ouvrages là, Alexis ou le traité du vin combat, Mémoire d'Adrien, L'œuvre noire, ces personnages sont homosexuels et en parlent. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu moins et qu'il faudrait refaire émerger justement, mais il faudrait, je pense, demander à des spécialistes plus.
Ah, en tout cas, moi je trouve que là tu nous as en tout cas donné envie de lire ou de relire certaines autrices comme Yourcenar, qui est absolument magique. Comment vous dire, il pleut, c'est la fête partout, mais tout le monde a le sourire, tout le monde s'active.
C'est la pluie du bonheur.
Voilà. Vous êtes bien en direct sur 48FM et en léger différé. Tu vas voir que je vais rentrer à Florac, je vais mettre l'émission et il va faire un soleil radieux. Les concerts ce soir seront au SEC, donc venez, il y aura trois artistes tout à l'heure. En plus de ça, le village associatif est totalement là. Franchement, il pleut, mais c'est bon. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant d'entamer le troisième plateau?
Absolument, et on va recevoir dans ce troisième plateau Royal Canin qui va jouer ce soir. Et on va écouter un titre pour faire le changement de plateau qui s'appelle « Ferme-la ». Alors c'est pas pour toi que je le dis, c'est le titre de la chanson, t'as compris hein Ben.
Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup merci. Franck, merci beaucoup à Maxime,
merci
et à Valérie qui est partie mettre les livres secs.
Elle est fan de voilà. Pluie Valérie.
Vous êtes bien sur 48FM en direct et Radio Barthes en léger différé en direct de la marche des fiertés, c'est Squaring Jolie Amande. Yeah.
S'il te plaît, ne dis rien, c'est comme ça que je t'aime bien. Tu pas, tu m'enchaînes, tu vois rien, tu fais de la peine. Tes mots m'ennuient, boucle là, je t'en supplie. J'aime t'enchaîner, même quand tu m'écoutes pas, je suis comme un roi dans ma villa. Tourne cette fois ta langue dans ma bouche, ça m'évitera de faire un bain de bouche. Quand j'ai plus rien à dire, il y en a encore, je connais tout, surtout, je vais t'apprendre le grand tout. Toujours un truc à sortir pour ton plus grand plaisir, j'ai l'air sûr de l'endurance, je sais que tu me désires.
Blabla, blabli, blabla, blabli, blabla, blabla, blabli, blabla.
Tu as des beaux yeux, mais surtout une grande bouche. Tu te prends pour un dieu, mais tu en tiens une grosse couche. Quand j'étais petit, je jouais aux petites voitures. Maintenant que je suis grand, à moi les grosses voitures, ça brille, c'est moi, le king du parking. Même quand je te tourne le dos, tu ne trouves pas sa louche. Pourtant le message est clair, tu me saoules, ça me vénère. Tu crois que tu veux pas, mais en fait tu veux dire oui. Je les connais les comme toi, un petit air froid, mais par derrière de subtiles chaudières. Quand je dis non, c'est non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non? J'étais tranquille, j'étais pépère. Il ne me reste même plus d'air. Vas-y, dégage, prends ta sale gueule, prends le large. Ou je dégaine ma chaussure à talons, je vais te la planter dans le front.
Allez, ça y est, on est de retour pour cette dernière partie d'émission. À la Marche des Fiertés, à Mende, la troisième Marche des Fiertés, en direct du Square Émile Joly, à l'abri au théâtre, Ben.
On est bien là, hein.
On est
dehors,
pas mal.
Dehors, il pleut, mais tant mieux, vaut mieux que ça tombe maintenant qu'à 17h, quand tout le monde partira marcher.
C'est ça, exactement. Oui. Alors, on va rappeler la règle pour cette émission, la règle imposée par l'ARCOM, l'ancien CSA, à nos invités ici présents. On est en période de réserve électorale, donc on a, nous, Radio Associative Non Commerciale, on n'a pas le droit de parler d'élections. Voilà, on parle pas de politique aujourd'hui et c'est tant mieux, ça nous fait une belle pause parce que aujourd'hui c'est la fête et c'est la musique et on a autour de ce plateau deux des groupes, on a entendu DJ Pom 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 et nous avons qui avec nous, en plus bien sûr de Thomas qui nous a rejoint de ta page, salut Thomas.
Thomas, salut. Salut.
Et nous avons Ben.
Allez, on y va pour Royal Canin, Marquise et Agathe, bonjour.
Yo yo yo.
Salut.
Et pour Poulet sans tête, Lucie et Amélie, bonjour.
Salut.
Hello.
Merci beaucoup vraiment à toutes et tous d'être avec nous, ça fait du bien. Bon, il pleut Thomas, mais t'as le moral, t'as la pêche?
Ouais, toujours.
T'as pris un kawé, t'as pris un parapluie pour tout à l'heure?
J'ai rien pris du tout, j'ai ma casquette comme d'habitude et un débardeur.
Écoute, de toute façon quitte à être mouillé, autant être vraiment mouillé. Hein.
Ah ben oui, nous on fait les choses à fond à ta page.
Ça, c'est sûr. Comment ça s'est passé cette année au niveau des bénévoles? Est-ce que vous recherchez encore des forces actives? Est-ce que les gens ont répondu à présent? Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, on a eu moitié moins de bénévoles que les années précédentes pour deux fois plus de temps de présence sur site, mais on s'en sort. Donc on cherche toujours évidemment des bénévoles, que ce soit pour les Pride chaque année ou même tout au long de l'année pour prévoir des événements, pour aider à organiser, pour en organiser, pour juste être là et discuter aussi, c'est cool. On cherche du monde tout le temps, évidemment.
Cette lutte, cette manifestation en tout cas, s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus revendicatif que les autres années.
Ouais, alors effectivement, les autres années, on avait quand même un truc militant toujours, mais cette année, au vu des derniers événements, notamment des explosions de violence qu'il y a pu avoir, de tous les extrêmes qui arrivent en force contre nous, on veut quelque chose de plus revendicatif, quelque chose de plus militant. Ce sera sous la pluie, mais c'est pas grave, ça rajoute du kiff. On a prévu pas mal de petites animations pendant la marche et en dehors de la marche. pour rappeler qu'on est là, on fait la fête et c'est cool, on en a besoin surtout en ce moment, mais on est aussi là parce qu'en fait ça va pas et ça a pas l'air de d'aller en s'arrangeant, pardon. Donc il faut faire quelque chose, il faut crier, il faut danser, il faut chanter, mais il faut dire quelque chose, quoi.
C'est ça en fait, il faut aller de l'avant et surtout bon, c'est génial, normalement on devrait être dehors, etc. L'avantage d'être sur le square Émile Joly, c'est vraiment centralisé, enfin centre-villarisé, je ne sais pas si ma question est claire, mais en tout cas de montrer que le mouvement LGBTQIA+ est là, plus que jamais là, présent, et puis qu'en plus c'est la fête, et de dire soyons ensemble, quoi, c'est construire des ponts.
C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on est trop contents cette année d'être à cet endroit-là. On est en plein centre, on prend la ville, on la prenait aussi les années précédentes, mais là vraiment on est là, on va faire du bruit, on va faire la fête, on va crier, on va hurler qu'on a besoin d'aide et que c'est la merde en fait. On va faire la fête en criant c'est la merde.
Ok, merci, ben on est là pour ça. Crier, c'est pas leur credo, c'est plutôt le chant. Marquise est un peu froid, hein, elle est en train de reboutonner. Hein,
se reboutonne en scred. Ouais.
C'est ça, il n'y a pas l'image, mais nous on balance avec Ben, on est comme ça. On est
pas sympa, hein.
Comment on défie la musique
de
Royal Canine pour vous deux?
Royal Canine, c'est du rap, du R&B. Et c'est de la rigolada aussi.
Depuis quand vous êtes ensemble dans ce groupe?
Le projet, il a commencé il y a 4 ans.
Ouais.
On a commencé à écrire nos premiers textes il y a 4 ans. Et puis au départ, Royal Canine, c'était un concert-spectacle. Parce qu'on vient toutes les deux du spectacle vivant, du cirque entre autres. Et on s'est rencontrés à travers un cabaret. On a bien rigolé, puis on a dit qu'on voulait pousser le délire plus loin, puis on voulait faire du rap, et moi je voulais faire du R&B, et puis du coup, Royal Canine est né, et puis il a évolué entre-temps, et puis ce soir, vous allez avoir la dernière mouture de Royal Canine.
C'est-à-dire la dernière mouture? La finalisation du spectacle
L'évolution. Alors, de là où ça en est, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Ouais.
Rassurez-nous, l'aventure, ça s'arrête pas là.
C'est que l'évolution, les choses. On a décidé de se concentrer plus sur la musique et moins sur le spectacle. C'était vraiment un spectacle-concert qui était très écrit. Et puis, on a décidé de garder toute la liberté entre les morceaux pour raconter ce qu'on avait envie de raconter. Et après, c'est une histoire d'énergie qui s'échange entre le public et nous. Et puis, chaque fois, ce sera différent.
Agathe, je te vois croquer un peu tout ce qui est en train de se passer autour de ça. C'est l'idée aussi. C'est quoi? C'est une photo? C'est une photo que tu es en train de
c'est
prendre.
C'est un dessin,
en fait.
Ben.
Oui,
parce qu'à Florac, des fois, ils ne savent pas entre photo et dessin. Donc, c'est un dessin.
Faut-il que l'on s'aime, mon Luzo? Non, mais en tout cas, je te vois croquer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle est en train de faire?
Ben, ouais, je dessine ce que je vois devant mes yeux. Je faisais ça de temps en temps. Et là, dernièrement, je l'ai fait beaucoup tous les jours sur plein de gens. Et en fait, je trouve ça trop bien. Et parce que tu peux te balader partout avec ton cahier et ton stylo. Et voilà, dessiner ce qui se passe. Et voilà, c'est chic.
Voilà, je rebondis dessus parce que dessiner ce qui se passe, on sait, les artistes sont souvent des éponges qui ressortent un peu leur vécu, voilà, leur sensibilité propre. C'est également votre cas, vous, de vous inspirer de ce que vous avez vécu dans vos textes, de raconter sans complexe finalement ce qui vous touche.
Tout à fait. On appelle ça de la fiction inspirée de faits réels. Tous nos textes, c'est à peu près ça.
Vous êtes donc depuis 4 ans, vous avez sorti des EP, vous en êtes où au niveau de votre production?
Bon, on a enregistré juste... 2 tracks en studio, qu'on est encore en train de finaliser, mais qui sont déjà écoutables.
Comme Ferme là que vous avez passé en prums.
Voilà, vous pouvez dire où c'est qu'elles sont écoutables pour les gens. Hein.
Ouais, sur le SoundCloud, et c'est Royal Canineux. Voilà. Je crois.
Comment vous êtes retrouvé à Mende? Comment ça s'est passé cette rencontre avec ta page qui organise la Pride?
Alors, il se trouve qu'on est venu en résidence en Lozère de création, donc il y a, je pense, 3 ans au moins, avec le Root Boy Crew qu'on croisait dans un peu le réseau de spectacles de rue, spectacles vivants, et on est venu là, on a fait une sortie de résidence. Et c'est là qu'on s'était croisés avec M. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Et elle a vu vraiment nos ébauches, le spectacle n'était pas du tout sorti. Puis elle nous a rappelé il y a quelques temps en disant « On a cru en vous à l'époque et je suis sûre que maintenant ça doit être très bien. » Donc elle nous fait entièrement confiance alors que bon...
Ah, c'est la pression,
c'est
là.
C'est la surprise. C'est un peu la pression, mais c'est aussi beaucoup de bonheur d'être là.
Je reposerai la question, évidemment, au poulet sans tête. On dit au poulet sans tête, ça marche au poulet sans tête. Hein. Est-ce que, quelle est la part d'engagement que doivent avoir les artistes par rapport à des événements comme ça, ou quelle est votre part d'engagement à vous? Est-ce qu'elle est importante, nécessaire? Est-ce que la culture doit être nécessairement engagée?
Waouh, c'est une vaste question.
On a 3 heures. De toute façon, il pleut, on fera rien d'autre.
Très bien, tout à fait. Et ben, on est pas mal ici.
Il y a la marche dans moins de 3 heures.
Ah, bah, jusqu'à 17 heures alors.
Bah oui, carrément, c'est important de venir jouer dans des événements qui nous portent à cœur et qui sont organisés par des gens qui font des chouettes choses et qui sont nécessaires aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Et du coup, on est bien content de se retrouver là et de participer à ce... bel événement, et il y en a plein d'autres partout qui se passent, et tant qu'on peut être là, et ben on le sera.
Tu veux rajouter quelque chose, ou je te voyais t'avancer
vers
le...
Non, je valide, je souris. Ça veut dire que ouais, on soutient plein de types de projets différents, et là encore plus que jamais. On a dit qu'on parlait pas politique, hein. C'est très
non,
bien.
C'est ça. Alors, on devait avoir M pour parler un peu de la programmation musicale. On l'a pas parce que y a beaucoup de choses à faire à cause de la pluie. Thomas, toi, tu connaissais ou pas du tout? Tu vas découvrir ce soir.
Alors, moi, j'ai écouté quelques sons avec M, justement. À chaque fois, c'est M et Léna qui font la progra. Et elle nous envoie des sons pour qu'on valide ou pas. Mmh. On valide toujours, en fait. On fait confiance, les yeux fermés. Donc j'avoue, sans mentir, ça va être une découverte.
C'est à quelle heure, du coup? Vous jouez à quelle heure?
Il me semble que c'est 20h30, avec possiblement un peu de retard, mais qui sera tenu au courant en temps réel, j'imagine.
Vous ouvrez le bal, c'est ça?
Exactement. Oui.
C'est vous. Ok, super. Donc si j'ai bien compris, DJ Pom 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 termine la soirée, vous ouvrez le bal, et entre les dents, on va retrouver...
Les poulets sont... Tête avec Lucie et Amélie, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je suis allé écouter ce que vous faites, c'était assez intéressant. Entre humour et engagement, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a beaucoup quand même d'humour dans ce que vous faites? Et derrière, si on lit entre les lignes, il y a vraiment l'engagement qu'on est là. Est-ce que c'est une bonne définition de votre projet?
Oui, c'est une assez bonne définition du projet. En effet, souvent les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent ouais, on savait pas trop ce qu'on était en train de regarder. Typiquement, nous, c'est un peu un spectacle-concert, quoi. Il y a beaucoup une dimension spectacle, histoire et tout ça. Et les gens disent waouh, on n'a pas compris. Et après, ils sont en mode ah ouais, c'est du second degré, tellement second degré qu'en fait, c'est du premier degré. On sait pas trop. Effectivement, on est un peu sur ce. À cet endroit, quoi. On aime bien les trucs qui grincent fort, quoi.
Ah, ça grince, mais tranquille. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Vous écrivez toutes les deux, ou tout d'un coup, vous dites tiens, moi j'ai une idée, et tiens, voilà le morceau, on met en musique. Comment ça se passe au niveau du processus de création?
C'est souvent Lucie qui vient avec des idées de chansons et de textes, en gros, de dans le fond. Et avec les deux autres personnes du groupe qui sont pas là, on est plus à l'aspect créatif, écriture musicale, quoi. Et du coup, des fois, c'est du coup Lucie qui arrive avec un sujet, bah, comme par exemple un son là qu'on a fait qui s'appelle Bébé Travelo. C'est Lucie qui arrive avec une idée très claire de « j'ai envie de parler de ça et tout ». Et donc nous, on fait une espèce de jam et on la suit, on trouve un peu la musique comme ça. Et des fois, c'est plutôt on a pensé avant une musique et on l'amène, et puis on écrit les paroles après, quoi. Enfin, on a un peu les deux.
Ludo.
Assez péchu, Bébé Travelo. Comment vous définiriez votre style? Donc c'est un quatuor, hein, on est d'accord?
C'est ça, on est quatre.
Voilà, quatre, batterie, guitare, violon, clavier, je suis bon?
C'est ça, des fois c'est de la guitare à la place du violon, ça change.
Et entre d'un morceau à l'autre, on a l'impression que c'est quand même pas le même style musical?
Ouais, alors on est très éclectique.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. Quand je suis passé d'un à l'autre, j'ai dit,
rien à voir. Ouais.
Bon, on dit des morceaux super punk et des morceaux super cool.
On dit qu'on fait du drama rock techno baroque. Mais en réalité, c'est plus éclectique que ça. On a ouais, une dimension spectacle, il y a un côté un peu comédie musicale aussi. On aime bien brasser plein de styles différents.
Quelle serait justement votre rêve ultime à montrer sur scène, au-delà de ce que vous faites? C'est justement une comédie musicale au Grand Rex à Paris?
Ouais, franchement, Grand Rex, je sais pas, mais le rêve ultime qu'on aurait, qu'on aimerait faire.
Artistiquement et sur scène.
Faire la première partie de Jimi Hendrix à Woodstock.
Non, mais après, il y a un max de scénos, vraiment, genre ouais. Du feu et tout. Ouais. Ouais, c'est pas écolo.
Un gros show.
Tu parles de scène, justement. Est-ce que c'est compliqué à tourner en 2024 quand vous êtes des groupes marqués comme ça? Je parle de groupes. Ou finalement, non. Ou il y a des obstacles pas qui veut répondre.
J'ai raté le début de ta phrase.
Ouais, moi aussi, pardon.
Pardon.
C'est bien. C'est la pluie.
C'est bien de suivre. C'est bon, c'est plus à nous. On peut... Je dis, est-ce que quand on est marqué comme vous, LGBTQIA+, c'est compliqué de se produire sur scène? Est-ce que vous faites face à des obstacles ou pas spécialement?
On est souvent bien accueillis quand même et on choisit aussi quand même un peu les endroits où on est bien accueillis. Mmh.
Ouais, donc déjà, à la base, vous mettez...
On sait où on met les pieds, quand même.
Ouais.
Oui, et puis les gens s'adressent à nous aussi. Enfin, ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu réciproque, quoi. Après, on n'a pas eu d'énormes obstacles particuliers pour le moment. Par exemple, à des endroits où on aurait aimé aller, où ça n'aurait pas été possible. Ça ne s'est pas forcément présenté, mais...
Nous, j'ai l'impression que c'est surtout... Enfin, en vrai, le domaine, le milieu de la musique, spectacle vivant... Enfin, surtout la musique, en vrai, c'est hyper dur. Et il n'y a pas de sous, donc surtout nous, vu qu'on est quatre, c'est aussi difficile pour cette raison. Aussi parce que ce qu'on fait, c'est un peu, ouais, c'est quand même un peu what the fuck. Et j'ai l'impression pour l'instant, ça... En fait, on n'est pas, j'ai l'impression, labellisé queer parce qu'on brasse des trucs très très vastes et qu'au final, c'est pas le truc. Bon, même si notre tube c'est Bébé Travelo, y a plein d'autres trucs aussi. Peut-être je me fourre le doigt dans l'œil, mais j'ai l'impression que. Ça allait, mais ça se trouve, je suis complètement à côté, en fait, si, je sais pas.
Vous vivez de ça ou pas?
Non.
Non, c'est compliqué, non. Ouais.
Ceci dit, comme tu disais, Lucie, votre tube, c'est Bébé sans poil, c'est ça hein?
Bébé Travelo,
ouais, qui a pas de poil, hein, je crois que c'est... Enfin, ou qui a des poils, je sais plus.
Il s'est arrêté au premier couplet.
Excusez-moi, non, j'étais en tire. Et d'ailleurs, tu l'as, il faut la passer sur les...
C'est pour clôturer l'émission.
Ah, tu es parfait, Ludo. Non mais justement, est-ce que c'est important aussi de sortir un tube comme ça pour pouvoir fonctionner, en fait, derrière? Genre, est-ce que si on a 2000 écoutes, c'est plus facile que si on en a 100 sur un tube? Je sais pas si ma question est claire.
Ouais, je pense que c'est plus simple, en effet. Après, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas pensé ce son comme si ça allait... Enfin, on n'était pas sûr que ça allait devenir un tube, quoi, mais c'est plus... Enfin, ça s'est fait comme ça, un peu.
Non, on est tellement célèbres.
Ouais, bah oui, en plus...
C'est incroyable.
Et ouais, donc, on n'a pas conscience ni qu'on est en train d'écrire un morceau qui fonctionne.
On
écrit juste par plaisir et par.
Ah si, on entend que ça peut être que ça rentre dans la tête, que ça peut être repris par d'autres et que si on sent que ça peut marcher quoi.
Alors quelle heure vous donc du coup 20h30?
Nous 21h45
avec peut-être un peu de retard. Et on terminera dans les minuits avec DJ Pom Pom Pom.
Ça claque dans tous les sens et il y a du bruit. Et il y a du bruit dans cette salle. Du coup, j'ai du mal à me concentrer. Mais ceci dit, Thomas, s'il y a 2-3 trucs à dire sur cette marche des fiertés, cet événement qui est là et qui débarque, pour conclure un tout petit peu.
Bah écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter, je pense. Sauf qu'il pleut. Il pleut vraiment très fort, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, venez.
Oui, venez, tout le monde, venez.
Oui, et j'en profite pour le dire, puisque l'accueil n'est plus vraiment à l'accueil. Donc la journée, c'est toujours au Square Émile Joly. On est à l'intérieur du théâtre, là. L'événement est à prix libre. Donc on rappelle que prix libre, ça veut pas dire gratuit. Ça veut dire que vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Nous, l'événement, il nous a coûté 7 000 €. Donc on n'est pas contre des piécettes, on va pas se mentir, pour qu'on puisse recommencer les années qui arrivent. On vous attend, on est joyeux, mouillé, heureux et en colère. quand même, en colère.
Surtout en colère. Autre chose, quand on a préparé cette émission avec Ludo et avec toi, on s'est vu il y a quelques semaines hein, pour discuter un peu de tout ça. On a discuté d'une manifestation et d'une Pride en interdépartement. Est-ce que ce serait des choses qui seraient envisageables ou alors on la garde en Lozère avec évidemment tout le monde pour ramener encore plus de monde et sensibiliser entre guillemets à la communauté LGBTQIA+.
Alors là, on n'en sait rien. Le seul truc qu'on a en tête, c'est finir ces deux jours et prendre un max de kiff. Et on verra pour l'année prochaine quand on aura dormi.
Bravo tout le monde, bravo à Tapage 48, félicitations vraiment parce que monter ce genre d'événement, on sait l'énergie et que ça représente, vous êtes absolument magnifique. Vous accueillez les gens de manière absolument magnifique à votre image, vous êtes absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Ludo.
Merci à toi Ben.
Écoute, c'est diffusé en direct sur 48FM, nous c'est diffusé dans une petite demi-heure, une heure, enfin j'espère que je vais pouvoir rentrer sur Florac, sur Radio Barthès. Nous on se revoit bientôt, hein, je pense, 48ème de rue, qui aura lieu la semaine prochaine. Restez bien sur les ondes des radios associatives qui font vivre la différence, qui partagent vraiment énormément de choses. Construisons des ponts plutôt que des murs, ça fait toujours plaisir. On vous embrasse, restez bien à l'écoute des radios associatives. Ciao. On se quitte avec Poulet sans tête, évidemment. Ciao, gros bisous, on vous embrasse.
Que bébé ne devienne pas ce qu'elle avait imaginé. Mais quand même, faut pas déconner. Je sais que quand je vais débarquer chez elle avec ma dégaine de mal rasée, elle va criser. Maman n'aime plus bébé. Maman n'aime plus bébé. Maman n'aime plus bébé. Elle voudrait l'épiler. Bébé travelo. Bébé travelo. Bébé travelo. Bébé travelo. Maman a accouché il y a 27 années d'un joli bébé, tout rose et tout potelé. Mais très vite, des poils noirs et drus ont poussé partout sur bébé. On aurait dit un putain de yeti. Maman n'aime plus bébé. Maman n'aime plus bébé. Maman n'aime plus bébé. Il lui faut accepter. Bébé travelo. Bébé travelo. Bébé travelo. Bébé travelo. Un papa, une maman, épilez vos enfants.